L'immaturité cause souvent des problèmes dans les églises locales. On peut premièrement discerner du manque de maturité chez certains croyants par l'esprit de critique qu'ils ont à l'égard de leur église. Par exemple, la lecture de biographies de grands hommes de Dieu à travers l'histoire ou les livres qui racontent des réveils spirituels sont franchement édifiants, mais un pasteur a dit un jour avec raison que la lecture de ces biographies-là emporte plusieurs à mépriser leur Église. Ça, c'est pas une bonne réaction. Les esprits trop idéalistes sont malheureusement plus portés à critiquer négativement leur Église qu'à l'édifier. Puis les critiques de ces frères-là, sont finalement pas d'une grande utilité, parce qu'ils sont trop démoralisantes pour les autres. C'est pour ça qu'on dit qu'en Jude 22, reprenez ceux qui contestent. Ici, Jude parle de ceux qui contestent, qui contestaient avec une mauvaise attitude. Il y a certaines critiques qui sont très utiles pour nous ouvrir les yeux, mais il y en a d'autres qui sont juste une forme de chiolage, ni plus ni moins, puis qui n'est pas utile à personne, dans le fond. Donc, idéaliser la vie normale de l'Église peut mener le croyant au découragement, puis même à la rétrogradation. Toute personne qui poursuit un rêve, un idéal, ou qui se fixe des buts trop élevés pour l'Église ou pour sa vie, multiplie les risques d'être déçu, puis de l'être encore plus profondément que les autres. Mais celui qui a appris à fonctionner avec ce qu'il a, avec les outils qu'il a, puis avec les gens qu'il a là, va pouvoir être heureux dans ce qu'il fait, puis vivre et apprendre le contentement. Il n'y a rien de pire qu'avoir des attentes trop hautes envers les gens. C'est une marque d'immaturité, d'un manque de sens des réalités qui peut amener un croyant à se détruire lui-même par sa propre amertume. Si les gens ne sont pas ce qu'on voudrait, mais rappelons-nous qu'on n'est pas nous-mêmes ce que Dieu voudrait qu'on soit non plus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont, à mon avis. La traduction aimante de Matthieu 6:12 est la suivante, qui m'a beaucoup touché. « Père, pardonne-nous nos manquements, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont manqué dans leur devoir envers nous. » J'aime cette traduction. L'esprit de parti, c'est également la preuve d'un manque de maturité important. Le concept de l'obligation de faire partie d'une église à l'exclusion de toutes les autres, c'est rien que du sectarisme inspiré par l'esprit de parti. La Bible interdit pas de visiter d'autres églises. Tout dépend des motifs qui nous poussent à le faire. Si on fait ça pour élargir notre horizon, connaître autre chose, et jouir de la variété de Dieu, c'est très bien, pourvu que vous savez que votre fidélité en tant que membre du corps de Christ, vous la devez d'abord à l'Église que vous avez choisi de faire partie et d'édifier. Il faut que le croyant comprenne qu'il ne fait pas seulement qu'assister aux réunions de son Église, mais qu'il est membre du corps de Christ. Dieu veut qu'on soit collé et consacré à notre Église de la même façon que nos bras ou nos jambes sont collés après notre corps. C'est pour ça que c'est pas pour rien que l'Écriture compare les membres d'une Église aux membres du corps humain. C'est pas supposé être séparable, ça. Quand on a bien compris ça, on peut y aller visiter d'autres églises si on veut. C'est enrichissant de voir autre chose. C'est aussi enrichissant d'édifier quelqu'un d'autre, quelquefois. Certaines églises jouissent de dons ministères que d'autres ont pas, et vice-versa. Les abeilles vont bien de fleur en fleur pour faire provision de miel, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est naturel. Alors, assister aux réunions de d'autres églises locales n'est absolument pas interdit dans la Bible. Par contre, il y a des chrétiens qui se promènent d'église en église parce qu'ils sont jamais contents de rien, puis qu'ils sont jamais bien nulle part. Ils vont dans une église, puis là, si ça ne marche pas comme eux autres s'attendent que ça devrait marcher, ou s'ils entendent un sermon qui touche leur point sensible un petit peu dans leur vie, ça les fâche, alors ils repartent dans une autre église. Puis là, s'il y a une autre petite chose qui ne fonctionne pas encore comme ils voudraient, ils flanquent tout cela encore, une fois, puis ils repartent à la recherche d'une église qui va fonctionner exactement comme eux autres pensent que ça devrait fonctionner. Ces chrétiens-là sont d'éternels malheureux. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on en arrive à choisir une église, qu'on s'attache à elle, aussi fermement que notre tête y prie après notre corps, ou que nos bras le sont, puis qu'on apprenne à complaire aux prochains qui sont là, malgré leur faiblesse, leurs fautes, leurs manquements. Si on se joint à une église, contentons-nous pas de nous asseoir dedans, dans une chaise, mais fonctionnons en tant que membres. Au 5e siècle, le christianisme étant devenu la religion de l'État, le paganisme a envahi l'Église. Puis il y a eu toutes sortes d'erreurs qui sont entrées en même temps. C'est J.M. Nicole qui a écrit dans son précis d'histoire de l'Église. L'autorité de la Bible est obscurcie par celle de l'Église. La doctrine du salut par grâce est obscurcie par la notion du mérite des œuvres. Le monothéisme chrétien est obscurci par le culte des saints. La spiritualité chrétienne, est obscurcie par les pompes du culte. La moralité baisse. Les âmes pieuses ont bien su constater et déplorer ces déviations. Seulement les uns ont cherché à les fuir en se réfugiant dans la vie monacale, c'est-à-dire dans les monastères, et ont été par là infidèles à l'Évangile. Fin de citation. Commencez-vous à comprendre pourquoi l'Église de Jésus-Christ a sombré, puis qu'elle est devenue l'Église catholique qu'on connaît aujourd'hui. C'est évidemment pas la seule raison, mais c'est en partie à cause du silence et du refus de s'impliquer de la part de certains croyants. Parce qu'ils auraient pu le faire au début. Ils l'ont prophète, plus tard, c'est devenu impossible. Bon, dès que les choses ont commencé à se gâter un petit peu, il y a beaucoup de chrétiens qui ont préféré se retirer de l'Église au lieu de faire quelque chose pour empêcher que le mal se propage, du moins le ralentir un peu. Au lieu de combattre pour la foi qui avait été transmise aux saints par les apôtres, ils ont baissé les bras et ils ont choisi d'aller vivre une petite vie bien spirituelle, bien tranquille, dans les monastères, bien à l'écart des problèmes de l'Église. Autrement dit, ils ont livré l'Église à la merci de l'ennemi. C'est comme s'ils avaient dit au diable, dans d'autres mots, « Tiens, mon diable, t'as vu l'Église, ben prends-la, rentre dedans, puis fais comme chez vous. Hein? Nous autres, ça ne nous dérange pas, ça en va de toute façon. Hein? » Au lieu de complaire au prochain en vue de l'édification, ils ont préféré s'en aller puis se complaire en eux-mêmes. Écoutez-moi bien, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre Église, c'est pas le temps d'aller bouder chez nous. C'est au contraire le temps de rester là, de nous tenir debout, de défendre la vérité, puis de guérir la partie malade si c'est possible. Il va s'efforcer, le bon chrétien va s'efforcer de demeurer fidèle à l'Église qui l'a choisi, puis va se marier avec en quelque sorte. Il va continuer à travailler à son édification dans les bons et les mauvais jours. C'est en Romains 14, 2, 3 et 19 que Paul a écrit « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Ce passage-là enseigne que le chrétien doit apprendre à complaire au prochain, encore une fois. C'est-à-dire que par amour pour les autres, il doit passer par-dessus les choses qui ne font pas son affaire, puis à être patient avec ce qui ne peut pas changer. Le chrétien complaisant va essayer de changer les choses très lentement. Puis s'il n'est pas capable, il va les accepter, puis il va apprendre à vivre avec, c'est tout. Le croyant doit s'efforcer de posséder la même patience, le même amour, puis la même fidélité que Jésus-Christ possède lui-même envers cette Église-là. Si on veut ressembler à Jésus-Christ, ben c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pierre a dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, en Pierre 4, 10. La maturité va graduellement pousser le croyant à se soucier de donner quelque chose à l'Église au lieu de se soucier de recevoir quelque chose lui-même d'elle. Personnellement, j'ai été amené à faire aujourd'hui partie d'une Église où le leadership possède un certain nombre de différences doctrinales avec moi. Mais ça ne nous gêne pas. Savez-vous pourquoi? Ben, parce qu'on s'aime. Il y a une dizaine d'années, je n'aurais jamais pu accepter de vivre dans une Église qui ne pensait pas comme moi. Mais aujourd'hui, je me sens plus obligé de changer les autres pour être heureux. J'ai plus besoin d'amener l'Église à penser comme moi pour pouvoir me sentir chez nous. Ceux qui s'irritent parce qu'ils réussissent pas à faire adopter certaines habitudes ou certaines croyances dans leur Église, qui ont un christianisme égoïste. S'il y a des choses qui sont claires dans la Bible pour toi, tant mieux, il va falloir que tu réalises que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Puis si t'es pas capable d'accepter que les autres pensent pas comme toi, c'est toi qui as un problème. Ça prend de l'amour pour vivre en paix dans l'Église. Cette paix-là s'acquiera pas sans sacrifice. L'amour, c'est un sacrifice. Le type égoïste peut pas être heureux dans les Églises qui pensent pas comme lui, parce que ça lui demande trop de renoncement à lui-même pour s'adapter. Il n'est pas heureux nulle part parce qu'il est obsédé par l'idée de faire rentrer ce qu'il croit dans l'Église. Il est habitué à chercher son bien-être en premier. À travers tous ses efforts pour changer l'Église où il est, c'est pas le bien-être de l'Église qu'il cherche dans le fond, c'est le sien. Alors il se tombe de route, là. Il appartient à une Église pour les mauvaises raisons. Certains chrétiens s'imaginent qu'ils vont être heureux seulement le jour où ils vont réussir à changer tout le monde dans l'Église, puis que tout va marcher comme eux autres le veulent. Le but même de leur présence dans l'Église, c'est juste ça, des fois. Leur but, c'est de modeler l'Église selon leurs propres désirs. Puis peu importe s'ils mettent la chicane partout pour y arriver. Il faut toujours que ce soit les autres qui répondent à leur aspiration puis à leur vision de l'Église. Si les choses ne fonctionnent pas comme ils pensent, que ça doit fonctionner, ben ils se fâchent. Ils forcent les choses. Puis si ça ne marche pas, ils se retirent ou ils se tiennent à l'écart puis ils boutent. Comme je dis tantôt, il n'est pas sage d'attendre trop des gens. Si les choses qu'on essaie de changer ne changent pas, c'est peut-être Dieu qui essaie de nous faire comprendre quelque chose, puis qui essaie de nous faire maturer un petit peu. Comme Dieu, on doit apprendre à aimer les gens même, et surtout quand ils ne nous donnent pas ce qu'on attend d'eux autres. C'est triste de réaliser que tant de chrétiens changent d'église pour les raisons les plus insignifiantes, les plus banales. Hein? Il n'y a pas assez de louanges, il y a trop de louanges, la louange est trop forte, la louange est pas assez forte, la musique est pas assez forte, la musique est trop vite. Les gens vont pas assez souvent leur serrer la main quand ils entrent dans l'église, le pasteur leur donne pas assez de responsabilités, le pasteur cherche à leur redonner trop, on les visite pas assez souvent, la liste a pas de fin. Ces chrétiens-là chialent contre la moindre paille qui se trouve dans l'œil de l'église, puis qu'ils voient pas la poutre de changement qu'ils ont à faire dans leur propre vie pour que ça aille mieux justement dans l'église. Un petit accrochage avec le pasteur ou le conseil de l'Église, puis tout de suite, ils tournent les talons puis ils disent « Ah, ben, ils me reverront plus ici. » Quand est-ce qu'on va comprendre que la vraie raison d'être de l'Église, c'est pas de satisfaire nos moindres désirs, mais de nous aider à ressembler à Jésus-Christ? Puis si on se trouve dans une Église qui fonctionne pas comme on voudrait, ben, gloire à Dieu, parce qu'on a là une excellente opportunité d'apprendre à complaire au prochain. Puis ça, c'est exactement ce qui va nous amener à ressembler plus à Jésus-Christ. Comprenez-vous? Si l'Église a un manquement quelque part, gloire à Dieu, vous avez là une opportunité de lui donner un peu de ce qui manque, puis de servir à un but positif dans son développement. Pour faire ça, vous allez être obligé de cultiver de la patience, puis de l'amour, puis ça, encore une fois, ça va vous amener à ressembler plus à Jésus-Christ. Quand Dieu nous montre une faiblesse de l'Église, parce qu'il nous appelle à la combler, pas rien qu'à la critiquer ou à s'en aller. Si tu réalises qu'il y a un manque d'amour, c'est parce que Dieu t'appelle à en donner. Là où il y a un manque de quoi que ce soit, Dieu t'appelle à combler ce manque-là. C'est à toi que Dieu l'a montré. Bon, ben, alors c'est à toi de le remplir au mieux de tes capacités. Dieu aime toutes les églises locales, malgré tous les problèmes qu'elles peuvent avoir. Puis, Dieu aime tous les vrais croyants, malgré leur degré d'ignorance aussi. C'est à nous autres à nous adapter, puis d'apprendre à aimer les gens comme Dieu les aime, c'est-à-dire d'un amour sans condition. C'est Michel Kwas, dans son livre The Christian Response, qui a écrit « Si votre corps prend toutes les décisions, donne toutes les ordres, si vous lui obéissez, votre vie spirituelle suffoquera et deviendra ultimement anémique. » Fin de citation. Les gens critiqueux sont souvent des gens rétrogrades qui ne sont plus en santé spirituellement. On va parler un peu du refroidissement spirituel parce que c'est, à mon avis, un des principales causes d'un comportement immature. Les croyants qui sont tombés dans une espèce de nonchalance spirituelle critiquent à propos de tout, c'est bien connu. La définition de nonchalance, c'est caractère, manière d'agir d'une personne qui manque d'ardeur, mollesse, tiédeur, négligence. Je réalise bien là que souligner les endroits où on est immature peut sembler bien négatif à prime abord. Je suis bien conscient de ça, mais des fois, faut gratter où ça pique, comme on dit. N'oublions pas que Dieu est compréhensif et qu'il est prêt à nous aider à surmonter chacune de nos faiblesses. Dieu est prêt à y mettre le temps nécessaire. Il va falloir nous le donner ce temps-là aussi. Le premier pas, c'est de reconnaître notre état, de l'admettre. Reconnaître notre péché, c'est déjà la moitié de la victoire. Puis quand un chrétien s'arrête puis se met à prier à propos de ce péché-là, il vient de faire encore 25% de la route qu'il mène à la victoire. Le croyant immature possède souvent une vie spirituelle déséquilibrée. On est trop, ils sont trop actifs dans toutes sortes de choses et pas suffisamment adonnés à la prière. D'autres sont presque totalement inactifs, puis continuellement à la recherche de sentiments agréables par le moyen de la musique puis de la louange. Souvent, il s'agit de gens contemplatifs qui savent pas souffrir pour Dieu. Ils n'ont pas à cœur l'avancement du royaume de Dieu, mais ils pensent juste à leur propre bien-être et à leur propre bonheur présent. Ils s'irritent, ils se fâchent contre tous ceux qui les appellent à faire quelque chose pour le Seigneur. Au lieu de mettre la main à la charrue de la sanctification personnelle, ils tolèrent aussi la présence de vieux péchés non confessés dans leur vie, parce qu'ils font partie d'une église où ils pratiquent la louange, ils finissent par se croire plus spirituels que les autres. Mais en réalité, certains de ces gens-là mènent une vie empreinte d'égoïsme. Il est biblique de louer Dieu. Mais si on le fait toujours pour aller chercher de la satisfaction et des sentiments agréables, je dis que c'est de l'égoïsme déguisé en spiritualité. On serait surpris de réaliser combien de la louange peut être creuse, quelquefois, aux oreilles de Dieu. Le but de Christ venant dans le monde a été de sanctifier les hommes pour les rendre agréables. Alors que ces mêmes hommes pratiquent la louange peu ou beaucoup, est tout à fait secondaire. L'important, c'est d'être saint pour Dieu. Alors, qu'il s'agisse du contemplatif qui ne fait rien, ou de celui qui est très actif, si le résultat, c'est la négligence de la sanctification intérieure, moi je dis qu'il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Les deux ont une conduite charnelle et immature. Je suis bien d'accord que la prière, la musique et la louange sont d'excellents moyens de se désintoxiquer de l'influence du monde, après une dure journée de travail, par exemple. La musique et la louange ont l'extraordinaire propriété de guérir nos sentiments blessés, puis d'évacuer la pression qu'il peut y avoir en nous. La pratique de la louange peut, dans une certaine mesure, repousser l'esprit de dépression dans notre vie. On a tous besoin de sentir la présence de Dieu, puis de prendre une bonne douche dans la gloire de Dieu de temps en temps dans notre cœur. Mais n'oublions pas que si la louange est un moyen de nous rafraîchir spirituellement, ce n'est pas un moyen d'échapper à nos responsabilités de croyants qui sont la sanctification intérieure et l'obéissance. Dans notre vie de tous les jours, dans nos rapports avec autrui. S'il y a des chrétiens qui désirent le retour du Seigneur plus que tout, mais c'est pas pour se reposer de leur œuvre, c'est justement pour ne pas être obligé d'en faire. On reconnaît des gens comme ça. Leur paresse puis leur manque d'obéissance à faire ce que Dieu leur demande dans leur vie de tous les jours les amène à éprouver une perte de qualité dans leur relation avec Dieu. Ce sentiment de l'éloignement de Dieu leur est naturellement bien pénible, mais au lieu de comprendre qu'ils devraient lever leurs manches puis être moins négligents à vivre selon la volonté de Dieu dans l'avenir, ils cherchent à combler cette absence de Dieu-là par plus de louanges encore. Alors, en faisant ça, ils s'éloignent encore plus du vrai problème, de la vraie solution, puis ils font seulement tourner en rond tout le temps. Ils sont comme un chien qui court après sa queue, un petit peu. Les gens immatures sont souvent aussi déséquilibrés. Moi, je connais un chrétien qui fait partie d'une église où l'emphase est mise presque exclusivement sur la louange et les dons spirituels. Un jour, il s'amène chez moi en me vantant la spiritualité de son église, puis d'essayer de me convaincre d'en faire partie. Je connaissais bien ce croyant-là depuis des années. Il avait emprunté, je pense, 400$ à un autre chrétien. Puis au bout de 10 ans, il ne l'avait pas encore payé. Il me racontait ça, puis il trouvait ça drôle. Tu lui prêtes de l'argent, puis tu ne sais jamais quand tu vas le revoir, ce type-là, ou même si tu vas le revoir. Pourtant, dans les autres domaines de sa vie, c'était un excellent chrétien. Alors, pour faire une histoire courte, là, comme il était en train de parler des spiritualités qu'il y avait dans son église, je l'arrête là, puis je lui dis, « Veux-tu me convaincre que ton église a quelque chose de plus que la mienne? » Ben, il dit, « Montre-moi si tu t'es sanctifié de tes anciens péchés. Tout l'argent que tu as emprunté à gauche et à droite à tout le monde, puis que tu remets jamais à personne, là. » J'ai dit, « Moi, je trouve pas ça normal que ça te fasse rire, puis que tu me racontes ça en riant. » Là, comme il faut s'y attendre, de la part des gens comme ça. Il s'est fâché, il s'est levé, puis il est parti en claquant la porte. Alors, attention, mes amis, que notre spiritualité, entre guillemets, soit en train de nous mener à la stérilité au point de vue sanctification. Rappelons-nous qu'on ne sera pas jugé sur la base de nos dons spirituels ou de nos bénédictions reçues, mais sur la base des efforts honnêtes qu'on aura faits en Jésus-Christ pour nous sanctifier. C'est un peu plus difficile. C'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas aller dans cette direction-là. On aime mieux avoir juste le chocolat. Hein? On aime mieux juste la rose, mais il faut prendre les épines avec aussi. Le christianisme, c'est comme ça. En Révélation 2.4, ça dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Entre autres choses, notre premier amour, c'était la rapidité puis la joie qu'on mettait à obéir au Seigneur au début de notre vie chrétienne. Loin d'être paresseux ou négligent, on se précipitait pour accomplir tout ce qu'on croyait être la volonté de Dieu, pas vrai? Même si c'était difficile pour nous autres, bien, on marchait sous nos craintes, on marchait sous notre chair, puis on faisait ce que Dieu nous demandait. Mais la plupart d'entre nous autres, on s'est mis graduellement et lentement à reculer devant ce qui déplaît à notre chair. Puis c'est comme ça que notre amour pour Dieu s'est refroidi. On voudrait jouir du sentiment de la faveur de Dieu, mais on fuit la seule chose qui pourrait nous la procurer vraiment, c'est-à-dire la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on était jeune chrétien, la plupart d'entre nous autres, on acceptait rapidement les corrections de Dieu, puis les ajustements qu'il faisait dans notre vie, par l'entremise d'autres frères, par exemple. Mais avec le temps, notre cœur s'appesantit. C'est appesanti, puis on veut plus être corrigé ou être repris. C'est ça le danger. On s'endurcit contre la vérité. La plupart des vieux chrétiens que je connais et qui ne vont plus à l'église sont des personnes qui ont, à un moment ou à un autre, été repris ou corrigés pour certaines choses dans leur vie, et au lieu de laisser la parole de Dieu pénétrer en eux, ils se sont sentis insultés, puis ils se sont indignés devant la réprimande, comme si on les persécutait. Ils se sont mis à crier à l'injustice, puis ils ont choisi d'adopter une attitude de rébellion, puis de sombrer dans l'amertume et la rancune. Puis ils ont reculé au lieu d'avancer spirituellement. L'orgueil les empêche maintenant d'admettre leur faute puis de revenir à l'Église. Ils sont devenus des épaves spirituelles parce qu'ils ont perdu leur premier amour, c'est-à-dire l'amour de la vérité et l'amour de la sainteté. Celui qui a perdu son premier amour, qui est relâché spirituellement puis qui va presque plus à l'Église, se croit généralement plus sage que la plupart des autres croyants qui demeurent fidèles. Il a inconsciemment éprouvé une perte d'honnêteté, puis il surestime son jugement comparé à ceux des autres. Le refroidissement spirituel revêt souvent une forme de fausse sagesse qui tend à justifier le relâchement puis la paresse. Si vous avez eu une réaction rebelle à quelque part, il est très important de la confesser à Dieu, puis de revêtir une attitude plus docile et plus enseignable. On doit apprendre à revenir sur nous-mêmes, puis à dire « Amen » à la vérité quand on l'entend, si on veut regagner notre premier amour, évidemment. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir perdu notre premier amour. C'est peut-être que certaines expériences négatives nous ont attristés ou désillusionnés de la vie de l'Église. Ça arrive très souvent. C'est peut-être aussi, comme on vient de le dire, qu'on a été rebelle devant la vérité d'une correction, puis qu'on en a gardé de la rancune. Mais arrive un moment dans la vie chrétienne où on doit apprendre à pardonner, où on va simplement finir par nous détruire nous-mêmes par notre propre amertume. Parce que l'amertume, c'est comme un ver qui ronge. Tôt ou tard, il va traverser. C'est nous autres qui vont payer le prix. Les gens qui prient pour que Dieu fasse un réveil dans le monde ou dans l'Église, mais qui ne donnent pas la permission à Dieu d'en faire un dans leur propre vie de tous les jours, prient simplement pour rien. Le jour de ses 24 ans, David Brainerd a dit « Je désire consumer ma vie à son service et pour sa gloire. » Pour ceux qui connaissent son histoire, on sait qu'il a consumé sa vie pour de vrai. Il a eu une vie très, très dure, cet homme-là. Il évangélisait les Indiens, puis au cours de ses voyages à travers les forêts pour trouver les différentes tribus, il arrivait souvent qu'il se perdait. Un jour, en hiver, il est tombé de cheval, il est tombé dans l'eau. Puis il s'est perdu dans le bois comme ça pendant 3 jours et demi. 3 jours et 3 nuits, excusez. à manger de même. Il n'est pas mort à 29 ans pour rien, vous savez. Dans sa biographie, il nous dit qu'il avait souvent des mal de tête pénibles, puis qu'il souffrait beaucoup de consomption. Il marchait là-dessus, puis il allait évangéliser quand même, parce qu'il aimait ces Indiens-là, puis parce qu'il voulait obéir au Seigneur qu'il avait envoyé là. Mais Dieu l'a utilisé, puis il y a eu tout un réveil, par exemple. Je vous invite, moi, à lire la biographie de David Brenner. Je veux dire, son journal personnel, c'est quelque chose. Ça coûte de même quelque chose de laisser Dieu faire un réveil dans notre vie. On doit ouvrir notre cœur à la correction, puis à la conviction du Saint-Esprit. On doit disposer notre cœur au renoncement à nous-mêmes, puis à l'obéissance. C'est comme ça qu'un croyant rétrograde se relève. En résumé, disons que la maturité du caractère chrétien se manifeste par un esprit enseignable vis-à-vis la correction, d'une part, puis par notre degré d'obéissance à la parole de Dieu, que les conditions soient faciles ou pénibles pour la chair. Je vais parler de la louange maintenant un petit peu. Qu'est-ce que ça vient faire dans notre étude? Eh bien, parce que bon nombre d'esprits immatures en font un sujet de querelle dans bien des églises. Je pense qu'expliquer la louange, puis comprendre où on doit la placer dans l'échelle des priorités de Dieu, va nous aider à devenir plus matures. Parce que c'est souvent ça le problème, on ne sait pas où la placer. Est-ce que c'est la chose la plus importante, ou est-ce que c'est secondaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui va en dernier? On va le voir. La Bible est claire. Dans l'Ancien Testament, il y a 8 mots hébreux qui décrivent 8 formes de louanges différentes. Les types de louanges forment un éventail complet, là, allant de la louange intérieure et silencieuse, même muette, à la louange bruyante et expressive. On va lire chacun des mots. Le premier, c'est « barak », qui veut dire « qui est un acte d'adoration, s'agenouiller, bénir Dieu ». Puis ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans ton cœur sans même ouvrir les lèvres. Alors, c'est ça, c'est une forme de louange biblique que Dieu nous prodigue. Le deuxième, c'est « toda », sacrifice de louange qui exprime à la fois une contrition dans l'esprit et de la gratitude pour un pardon. Ça aussi, ça peut être intérieur. Il y a Tila, qui veut dire un hymne de louange et d'éloge. Alors, on commence à chanter. Là. Le quatrième, il y a Zamar, toucher, jouer sur les cordes d'un instrument de musique. Faire de la musique, accompagner la voix. On voit ici, là, tiens, la musique s'accompagne et vient s'ajouter aux paroles. Là, il y a le mot Yada, qui signifie adorer avec les mains élevées. Le sixième, Hilal, se réjouir, action de grâce, pour une bonne récolte, par exemple, ou pour une bénédiction reçue. Le septième, Shabak, s'adresser à Dieu avec une forte voix. Le huitième, Halal, qui signifie célébrer bruyamment, vociférer, crier, pousser des clameurs. Bon, tout ça pour dire qu'il existe des formes de louange pour tous les tempéraments et pour toutes les occasions dans nos vies. Efforçons-nous seulement d'être les plus sincères possibles dans la forme de louange qu'on aura choisi d'adopter personnellement. C'est pas la forme de louange qui est importante devant Dieu, mais la sincérité qu'on a dans l'une ou l'autre de ces formes-là. Combien il y a de chrétiens aujourd'hui qui changent d'église juste parce qu'ils aiment pas la musique? Ça sert à rien de se disputer sur le style de la musique qu'on devrait y avoir dans l'église. Quand on chante, Dieu écoute même pas la musique, il écoute les paroles. Ça, je peux le prouver. En psaume 104, 33-34, qui dit, David dit, « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables. » Il y avait de la musique, mais il réalisait que Dieu écoutait d'abord et avant tout ses paroles. Ce sont nos paroles qui sont agréables à Dieu, pas la musique. Que la musique soit rapide ou lente, triste ou joyeuse, entraînante, reposante ou endormante, ça n'a aucune espèce d'importance aux yeux de Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est de voir jusqu'à quel point tu penses ou que tu vis les paroles que tu chantes. Je dis par expérience qu'il peut y avoir autant de gloire, de présence de Dieu puis de bénédiction dans une adoration silencieuse que dans une louange bruyante et expressive. Toutes ces choses-là sont totalement relatives. Ce qui importe, c'est d'offrir à Dieu un culte qui vient du cœur. il est stupide, je dis bien il est stupide, d'élever ou de prêcher une forme de louange plus qu'une autre dans l'Église, puis de donner l'impression que la forme de louange qu'on préconise, ben, est la plus spirituelle, que toutes les autres, c'est bon rien, c'est de la gnognotte, hein? Ou que les gens ou les églises qui louent pas Dieu de notre façon sont des pas spirituels, ou qu'il s'agit d'une église morte. C'est triste de constater que c'est ce qu'un bon nombre d'assemblées à caractère charismatique pensent des églises baptistes, par exemple, ou des assemblées des frères ou d'autres églises semblables où la louange expressive n'est pas pratiquée. On dit que c'est des églises mortes. Je ne sais pas si on réalise bien ce qu'on est en train de dire quand on affirme qu'une église est morte, mes amis. Quand on dit à quelqu'un quand on dit que quelqu'un est mort spirituellement, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Ou qu'il est sombré dans une vie de péché. Bibliquement, c'est ça que ça veut dire, être mort spirituellement. Alors, pesons nos paroles un petit peu avant de dire n'importe quoi. Si on n'est pas capable de faire partie d'une église qui ne loue pas Dieu de notre façon, posons-nous de sérieuses questions à propos de notre degré de maturité. Une église qui pratique beaucoup la louange, une église où il y a beaucoup de bruit, ça signifie toujours pas qu'elle est plus vivante spirituellement pour autant. Selon la Bible, je dis bien selon la Bible, une église où il y a des croyants vivants spirituellement, il ne s'agit pas de gens qui font du bruit avec leur bouche, mais des gens qui font tous leur effort pour obéir à l'esprit de sainteté dans leur vie de tous les jours. Vous lirez Romains chapitre 8 et Éphésiens chapitre 5 pour ça. Tout comme il existe une sorte de sainteté tout à fait extérieure, comme le pharisaïsme, il existe une louange extérieure également. Une louange creuse, charnelle, puis qui n'a pas de valeur devant Dieu. Écoutez-moi bien, il y a une différence. Je voudrais bien que vous compreniez ça. Il y a une différence entre une église qui loue le Seigneur puis une église où il y a juste de l'animation. Il y a toute une différence entre une église animée puis une église qui est vivante spirituellement. L'animation n'est pas de la spiritualité. Il y a autant de différence entre l'animation puis l'esprit de louange qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. Il y a une différence entre une église morte et un culte silencieux. Une adoration silencieuse et sincère, basée sur une vie d'obéissance à la parole de Dieu, a bien plus de valeur devant Dieu que des grandes louanges prononcées par des gens qui vivent dans le relâchement durant la semaine, puis qui ont un paquet de choses à se reprocher. J.M. Nicol, dans son précis d'histoire de l'Église, encore une fois, a parlé d'un jeune homme nommé George Fox, qui a vécu au 17e siècle. Ce jeune homme-là, un jour, il a trouvé le Seigneur, puis il s'est mis à prêcher un réveil. Bon, voilà ce que l'histoire rapporte de lui. Il se mit à prêcher partout avec beaucoup d'ardeur. Devant ses appels véhéments à la repentance, ses auditeurs étaient fréquemment saisis de tremblements, d'où le nom de Quakers, ou trembleurs, si on préfère en français. Les Quakers croient à l'autorité de la Bible. Ils rejettent toutes les formes rituelles. À propos de leur culte, il est dit que ce sont des endroits, écoutez-moi bien, leur culte, ce sont des endroits où le recueillement et le silence occupent une place importante. Fin de citation. On peut voir que le silence ou l'absence complète même de louanges expressives a absolument pas empêché un réveil spirituel de se produire, puis de se poursuivre pendant de nombreuses années. Croire que Dieu est présent seulement là où il y a du bruit, et seulement là où que ça bouge, puis qu'il n'est pas là quand ça bouge pas, est une conclusion fausse. Je vais vous dire juste une chose, c'est pas l'animation qui va réveiller puis édifier une église spirituellement. Les réunions qui bougent, comme on dit, ont souvent rien de plus spirituellement que celles qui ne bougent pas. Les gens qui sont là, je veux dire, sont pas plus saints qu'ailleurs. Des fois même, ils sont pires. Bibliquement, savez-vous ce que c'est un réveil spirituel dans une église? C'est pas le fait d'ajouter un drum ou une guitare électrique dans l'orchestre qui va vous donner réveil, mes amis. C'est pas en poussant des cris puis en dansant autour des chaises non plus. Et c'est un retour à la sainteté personnelle puis à l'obéissance à la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, surtout dans nos rapports avec autrui. C'est ça un vrai réveil spirituel, selon la Bible. Roy Essien a dit, « Le réveil spirituel doit commencer à la maison, parce que c'est là qu'on pêche le plus. » Amen à ça. Ça, c'est un vrai réveil. C'est ce genre de réveil-là qu'on a besoin aujourd'hui. On a ça dans Éphésiens 5, 3, 14 d'ailleurs. Je vais lire seulement le verset 11 et le verset 14. Vous pourrez toujours Vous allez comprendre avec ces deux versets-là, puis vous pourrez toujours aller lire le reste si ça vous tente, là. Je commence. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Hein? Une augmentation du souci de sa sanctification personnelle. C'est ça que Paul appelle un réveil spirituel. Je me souviens, à un moment donné, on faisait des réunions chez des chrétiens, puis on était un couple de famille, une couple, trois ou quatre. Comme la réunion venait juste de commencer, j'en entends un qui engueule sa femme dans une autre pièce à propos de je sais pas quoi, là. Je l'entends l'engueuler. Bon, c'est des choses qui arrivent, il n'y a personne de parfait, les couples passent des périodes d'ajustement, puis c'est normal. C'est pour ça que je veux souligner. Ce qui n'était pas normal, par exemple, c'est que le type prend même pas le temps de se réconcilier, il vient tout de suite après se joindre à la réunion, puis il lève les mains au ciel, puis il commence à louer le Seigneur avec les autres à haute voix, comme si rien s'était passé dans sa vie. Ce chrétien-là était pas plus méchant que les autres, c'est sûr, il y avait juste une mauvaise compréhension des priorités de la vie chrétienne. Comme un grand nombre de chrétiens aujourd'hui croyaient que la louange était la chose la plus spirituelle à faire dans sa vie. C'est ça qu'il avait reçu comme enseignement depuis le début de sa vie chrétienne, puis c'est ça qu'il faisait. Un certain pasteur, parmi tant d'autres, a écrit « L'adoration est l'activité la plus importante et la plus élevée de la vie d'un croyant. » Fin de citation. Boy, quand on entend des choses comme ça, souvent, j'ai lu des livres, moi, c'est ça, c'était pratiquement le titre du livre. On entend ça très souvent. C'est bien de valeur, mais c'est pas biblique. 1 Timothée 2,8 dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Quand on lève nos mains, c'est pas nos mains que Dieu regarde, c'est le cœur qui est à l'autre bout. Alors quand on dit louange, on dit sainteté en même temps, sans s'en rendre compte. En tout cas, Dieu, lui, comprend les choses comme ça. Puis quand on prêche que les gens doivent se forcer pour louer Dieu, puis, hein, sans parler de sainteté d'abord, je veux dire, on manque le principal, là. Un certain évangéliste a dit avec raison un jour, c'est pas l'adoration qui plaît à Dieu, mais ce sont des saints adorateurs. Je dis amen à ça. Un soir, vers 10 h, je venais juste de me coucher quand l'Esprit de Dieu se met à me faire sentir intérieurement que je devais aller prier. Là, je me suis dit, OK, ça me tente pas bien gros, mais je vais obéir quand même. Comme je connais Dieu, je ne le regretterai pas, je vais sûrement passer un bon moment dans le Seigneur. Ça fait que je me lève, je m'habille, puis je m'en vais à l'église. J'avais les clés, puis la grâce qui m'avait amené là, étant donné que ça n'arrive pas souvent, ce que Dieu, il t'appelle à te lever du lit puis aller prier, il doit avoir quelque chose d'important à me dire, quelque chose de beau, tu sais. Ça doit être bénissant là, quelque chose qui m'attend. Une belle surprise. Je m'attendais à être vraiment béni. J'arrive là, puis j'étais là tout seul avec Dieu. Puis au lieu de me bénir en touchant un de mes sentiments, Dieu a touché un de mes péchés à la place. Aussitôt que j'ai commencé à prier, Dieu a tout de suite mis le doigt sur un péché dans ma vie, puis il m'a rappelé de prendre la chose plus au sérieux dans l'avenir, puis de travailler à m'en détourner. Je vais vous dire une chose, j'ai peut-être pas été béni dans mes sentiments autant que je pensais ce soir-là, mais j'ai été béni d'une autre façon, par exemple. Le fait que Dieu mette son doigt sur un de mes péchés, puis qu'il m'aide à faire une croix dessus, moi, il était bien plus profitable spirituellement que si j'avais passé 2 heures dans la gloire de Dieu, comme on dit. Moi, j'aime mieux que Dieu me bénisse moins, puis qu'il me change plus. Pas vous autres? J'espère que c'est votre désir également. Rechercher les bénédictions de la louange peut être tellement charnel des fois, vous savez. La louange peut devenir le meilleur moyen de fuir ses responsabilités de chrétien, puis de père de famille, puis de tout ce que vous voulez de simple dans la vie de tous les jours. J'en connais des tas de chrétiens comme ça qui partent en claquant les portes quand tu viens pour les corriger à cause de certains péchés dans leur vie, puis qui se précipitent pour assister aux réunions d'une église où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de louanges puis beaucoup de musique. Ah, ça, ils n'ont pas de misère à faire ça, par exemple. Mais je peux vous dire tout de suite que ça ne durera pas comme ça tout le temps. Dieu va vous faire descendre de votre nuage un de ces jours, mes petits amis. Il va vous remettre les yeux en face des trous. Ça, vous pouvez en être sûr. Ce n'est qu'une question de temps. Vous allez perdre de la grâce. Plus vous allez essayer d'en trouver à travers la louange, moins vous allez en trouver. plus vous allez en perdre dans votre vie de tous les jours. Là, vous comprendrez plus rien. Puis là, vous allez vous rappeler ce que le vieux Jocelyn Girard enseignait. Puis vous allez dire, ouais, il avait peut-être raison. Il y a peut-être plus de spiritualité dans le silence, puis dans l'humilité, puis dans l'obéissance qu'il y en avait dans la louange, puis dans les danses, puis dans le drum, puis dans la guitare électrique. J'espère, si Dieu vous aime, vous allez en arriver là. Des fois, on se demande pourquoi Dieu ne nous bénit plus autant qu'avant. Tu sais, pourquoi on ne sent pas la présence de Dieu autant qu'avant dans l'Église. On va vous le dire pourquoi, moi. Pourquoi est-ce qu'on en faisait de la présence de Dieu quand on l'avait? Moi, j'ai pas de misère à comprendre du tout pourquoi on l'a perdu. C'est Oswald Chambers qui a dit, « Quelquefois, Dieu nous place sous la discipline du désert spirituel pour nous enseigner à l'écouter. » Fin de citation. Dieu nous bénissait de sa présence, mais nous autres, on faisait juste en profiter pour se payer un bon temps. Il y a un proverbe qui dit, « Quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. » On n'a peut-être pas compris le message de Dieu. On n'a peut-être pas compris que Dieu voulait nous amener à une vie de plus grande obéissance en nous bénissant comme ça. Ou à plus de renoncement, puis à plus de sainteté. Il y avait peut-être des choses à régler dans notre vie. En nous bénissant, le Seigneur s'attendait à ce qu'on réponde par de l'obéissance. Puis à la place, ben, on voulait avoir encore plus de bénédictions. L'obéissance vaut mieux que la louange, mes amis. Saül avait l'air bien spirituel quand il s'est dévêtu, là, puis qu'il a loué le Seigneur face contre terre pendant toute une journée. Ça ne l'a pas empêché de vouloir encore tuer David quelques jours plus tard, par exemple. Saül avait permis à Dieu de toucher ses sentiments tant qu'il voulait, mais il n'a pas permis à Dieu de changer son cœur. Il faisait juste prendre de Dieu ce qui était bénissant, puis refusait de faire des efforts pour faire mourir les péchés qu'il avait dans son cœur. Dans beaucoup d'églises, les grandes louanges et une adoration bruyante, c'est à peu près tout ce que les croyants font durant les réunions. Puis le pire, c'est qu'ils se croient souvent au moins 10 fois plus spirituels que les autres. Croire que les chrétiens qui louent le Seigneur d'une façon bruyante sont plus spirituels que ceux qui le louent d'une façon moins expressive est absolument faux. L'histoire le prouve. Vous n'avez qu'à en visiter des églises puis en connaître des gens personnellement. Vous allez voir que je dis la vérité. Moi, je connais des pentecôtistes qui louent le Seigneur comme des lions dans l'église puis qui sont charnels comme des ours dans leur vie de tous les jours. Je connais des baptistes qui lèvent même pas de main au ciel, durant les chants, mais qui ont une piété, un amour et une consécration très profonde pour Dieu dans leur façon de vivre quotidiennement. Ce que je veux dire, c'est que la forme de louange qu'on pratique n'a absolument rien à voir avec la spiritualité. Frères et sœurs, ne louons pas Dieu avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. Je ne dis pas ici que les baptistes sont plus spirituels que les pentecôtistes. Je dis qu'ils sont peut-être un petit peu plus terre-à-terre, par exemple. Sont peut-être un petit peu plus conscients de leur devoir d'obéissance envers Dieu que d'autres, que ceux qui mettent l'accent là, sur la louange, premièrement. Quand j'avais environ 10 ou 12 ans dans le Seigneur, j'ai vécu une petite expérience qui a marqué un tournant dans ma vie spirituelle. Il faut que je vous dise avant tout ça que le début de ma vie chrétienne, pendant, je ne sais pas, 5-6 ans, disons, j'ai été pentecôtiste, j'ai été dans une église qui faisait partie du Elim Fellowship, où la louange était très, 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 très importante, qu'on n'enseignait pratiquement rien que ça. J'ai connu le milieu, je sais tout ce qu'il y a à savoir là-dedans. J'ai écouté, je pense, des centaines de cassettes de prédicateurs, d'évangélistes, puis de docteurs pentecôtistes. J'ai tout étudié ça, je sais, j'ai pratiqué moi-même tout ça. Alors, je parle pas à travers mon chapeau. Je suis devenu baptiste à un moment donné dans ma vie, pendant 7 ans. Question d'établir l'équilibre un petit peu. Alors, de ce que je parle, là, je le dis par expérience. Ce n'est pas juste des paroles garochées en l'air. Là, vous écoutez quelqu'un qui a été vivre dans les deux camps, qui a connu les deux mondes, puis qui sait de quoi qu'il parle. Alors, j'espère que ça va donner un petit peu plus d'autorité à mes paroles maintenant. Quand j'avais environ 10 ou 12 ans dans le Seigneur, comme je disais, j'ai vécu une expérience. Ça a changé ma vie beaucoup. Jusque-là, ma vie de prière avait toujours été très bénissante, très bénie. Chaque fois que j'allais prier, je me mettais un peu de musique, là, puis je me sentais tout de suite là, dans la présence de Dieu, puis je passais un temps magnifique. Il n'y a rien comme sentir la présence de Dieu pour fortifier la foi, d'un jeune croyant. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais sans m'en apercevoir, au cours des années, j'en étais venu à déphaser un peu le vrai but de la prière et de la louange. À cette époque-là, je partais à tous les soirs à faire un tour en auto pour prier. Je mettais une cassette de musique dans la radiocassette, puis j'étais béni pendant au moins une heure. Ça a fait un temps. Ça a fait quelques mois. Un beau soir, je pars comme d'habitude, je commence à prier, puis il se passe rien. Je sens rien. Bon, le premier soir, j'ai pas fait attention tellement. Je dis, bon, je file pas, hein. Des affaires qui arrivent. Le lendemain, c'est encore pareil. Je sentais plus à peu près rien. Après une semaine ou deux, comme ça, tous les soirs, là, que je sentais encore rien, quand j'allais prier, sauf, là, je commençais à sentir une drôle d'impression intérieure, que Dieu essayait de me dire quelque chose. Cette situation-là m'a inquiété pendant un bon bout de temps, je peux vous dire. J'ai pas lâché mon bout de suite. J'ai pas compris tout de suite. Ça m'a amené à réfléchir, puis à faire des efforts pour essayer de décoder, là, puis d'interpréter cette espèce d'intuition intérieure-là que j'avais, là, que Dieu voulait me dire quelque chose, là. Que Dieu avait cessé de me bénir pour me dire quelque chose d'important, pour que j'écoute, là. Dieu nous parle en nous donnant des impressions dans notre cœur, par une sorte d'intuition, ce qu'on appelle souvent la petite voix, qui est si facile à pas entendre quand ça fait pas notre affaire, là. À un moment donné, Dieu m'a rappelé un verset, Deutéronome 8:3, qui dit « L'Éternel t'a humilié, et il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Waouh, ce verset-là m'a frappé. Dieu m'a fait comprendre par là qu'il me privait de sentiments agréables pour que je porte plus d'attention à ce qu'il avait à me dire, puis à ce qu'il fallait que je change dans ma vie, au lieu de toujours courir après les bénédictions, comme un enfant qui court juste après les bonbons, là. J'ai fini par comprendre que j'avais un grand besoin de donner plus de maturité à ma vie de prière, puis de rechercher à approfondir ma relation avec Dieu, au lieu de rechercher seulement à être béni par la prière. Adorer, ça signifie se prosterner devant. Maintenant, le geste en lui-même est absolument sans valeur, si on ne comprend pas la réalité spirituelle qui doit l'accompagner. Une fois, j'ai été dire ça dans une église pentecôtiste. Oui, oui, oui. Je me suis pas fait aimer de suite. Il y a une dame qui m'a coupé la parole, là, puis ça n'a pas été long. Pour elle, c'était très important que tu te mettes à genoux, puis que tu te mettes la face sur ta chaise, puis que tu fasses le geste. Ben, il dit, correct, vous pouvez le faire, le geste. J'ai rien contre le geste. Mais l'important, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous du geste. En tout cas, alors, ça signifie se prosterner devant. Le geste en lui-même n'a pas de valeur, on comprend ça. L'important, c'est la réalité spirituelle qui doit l'accompagner, ce qui est en dessous. C'est comme la repentance, là. Sous l'Ancien Testament, Dieu, quelque part, disait à Israël, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » C'est la même chose pour l'adoration. L'adoration, c'est plus qu'une simple position physique. Lorsque la Bible nous dit « Prosternez-vous devant Dieu », il ne s'agit pas seulement de se prosterner physiquement, mais il y a une exhortation qui est en dessous de ça, qui est celle de laisser Dieu faire un ministère en nous autres durant notre adoration. Ce qui fait la véritable valeur de l'adoration, c'est son caractère consécratoire. Je m'explique. La véritable adoration doit normalement contribuer au renoncement à notre orgueil, par exemple, puis de notre indépendance envers Dieu dans notre vie de tous les jours. On ne se prosterne pas devant Dieu non plus juste pour les sentiments agréables qu'on peut ressentir ou recevoir de Dieu. Ce n'est pas ça le but de l'adoration. Les chrétiens qui louent Dieu uniquement pour se sentir bien en sont venus à pratiquer une louange qui est plus égoïste que spirituelle, si vous voulez mon avis. Une louange comme ça a peu de valeur devant Dieu. Je vais vous dire une chose. Moi, je crois que Dieu est fatigué d'entendre cette sorte de louange creuse-là parmi son peuple. En Luc 4:46, Jésus a parlé de la louange creuse. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je dis. Se prosterner devant Dieu, c'est un acte par lequel on renonce à marcher selon la chair. Dans quelque domaine que ce soit dans notre vie, c'est un acte par lequel on accepte la volonté de Dieu quelque part, là. C'est un acte par lequel on renonce à la rébellion, puis à la désobéissance qui caractérise trop souvent notre vie. À travers l'adoration, on doit chercher à disposer nos cœurs, à laisser Dieu travailler dans nos vies, pas seulement au moment où on est en train de l'adorer, mais encore plus quand on va s'être relevé de là, surtout. L'adoration est une sorte d'engagement, de consécration à l'obéissance, un engagement à laisser Jésus-Christ vivre davantage à travers nous autres, dans le futur, dans notre quotidien. Prosternons-nous pas de corps seulement, mais de cœur surtout. Louons pas avec la langue seulement, mais avec nos actions quotidiennes surtout. Je me demande jusqu'à quel point le chrétien qui adore Dieu seulement pour les bénédictions sensibles qu'il peut en tirer n'est pas en train de perdre son temps un petit peu. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal de rechercher la présence de Dieu, au contraire, c'est quelque chose qui nous rafraîchit spirituellement, c'est bien le sentiment de la présence de Dieu. Mais je parle de ceux qui n'ont pas à cœur de changer, qui n'ont pas vraiment à cœur d'obéir au Seigneur, puis qui pensent juste à se payer du bon temps quand ils vont à l'Église, sans jamais rien rendre au Seigneur, sans jamais rien sacrifier. La fête des tabernacles chez les Juifs, par exemple, était une grande fête. Cette fête-là était une célébration spirituelle comparable à nos plus grands ralliements d'Église. La fête durait 7 jours, 7 jours de louanges, d'actions de grâce, de chants, de musique, de danse, d'offrandes et de prières. Les Juifs croyaient plaire à Dieu de façon extraordinaire. Ils se croyaient spirituels au maximum en faisant ça. Mais Jésus leur a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, c'est-à-dire par des louanges, mais son cœur est fort éloigné de moi. » Wow! C'est pas fait aimer de suite, journée-là, notre Jésus. Quand on fait rien que louer Dieu pour se sentir béni, mes amis, on est en train de tourner en rond, spirituellement. Dieu a beaucoup plus que ça pour nous autres. J'espère que l'Église de Jésus-Christ va finir par le réaliser. Je dis pas ça pour vous porter à cesser de louer Dieu, mais pour vous encourager à donner plus de maturité à votre louange, par exemple. Moi, j'ai pas l'impression que Dieu veut qu'on le loue plus, mais qu'on le loue mieux. Je vous dis pas d'arrêter de louer Dieu, au contraire, la vraie louange stimule en nous de pieux sentiments, ça renouvelle nos forces, puis ça nous donne une certaine révélation de Dieu, de son amour, de sa grandeur, ce qui est loin d'être négatif. La louange inspirée est édifiante pour les autres, puis pour ceux qui l'entendent, pour nous autres, puis pour ceux qui l'entendent, excusez. Moi, je connais des chrétiens qui n'auraient jamais tenu le coup s'ils n'avaient pas appris à louer Dieu au début de leur vie chrétienne. La vraie louange peut nous décharger de nos fardeaux, puis nous relever le moral comme rien d'autre peut le faire. La louange attire la gloire de Dieu dans notre cœur et rend la présence de Dieu tangible à nos sentiments, puis ça, ça a pour effet de fortifier notre foi en Dieu. Je ne vous dis pas d'arrêter d'adorer Dieu, je vous dis juste de réfléchir plus avant de le faire, parce que l'adoration, c'est aussi une sorte d'engagement qu'on prend devant Dieu, puis il faut en être conscient. Ecclésiaste 4, 17 à 5, 6 nous dit: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. À travers la louange, le Saint-Esprit délie le croyant des sentiments négatifs qu'ils font souffrir des fois. Les bénédictions de la louange le remplissent d'un nouveau courage, puis l'aident à persévérer. Mais le rôle du Saint-Esprit est également de plaider avec lui, dans son cœur, dans le but de l'amener à se soumettre davantage à son influence, puis de marcher d'une manière digne de Dieu parmi les hommes. Comprenez-moi bien, je pense que c'est bon, utile, puis même nécessaire aux croyants de ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Ça nous fortifie, puis ça nous fait goûter combien le Seigneur est bon, puis ces choses-là sont positives dans la vie de tout croyant. C'est un besoin chez tout croyant de ressentir la présence de Dieu de temps en temps. Le côté émotionnel de l'homme a besoin de nourriture, autant que son côté physique et spirituel. J'en suis bien conscient de ça. Mais en conclusion, à l'avenir, quand on va lever nos mains vers le ciel, ou quand on va se prosterner devant Dieu, pour ceux qui le font, rappelez-vous que c'est pas seulement une façon d'être béni, mais que c'est aussi un engagement qu'on prend devant Dieu. Un engagement à obéir à sa parole dans nos vies, de tous les jours, au meilleur de nos capacités. Adorer Dieu, c'est une façon de lui dire, « Oui, Seigneur, tu es maître dans ma vie. Oui, Seigneur, je te donne la permission de travailler dans ma vie, de mettre ton doigt sur tous les péchés que tu vois et que je veux pas voir. Puis je te donne la permission de me corriger toi-même ou de le faire par l'entremise de d'autres frères, s'il le faut. Oui, Seigneur, je te donne le droit de m'enseigner, je te donne l'autorité de me corriger ou de me reprendre puis de me changer. Oui, je te loue, Seigneur, de ce que tu nous as choisi pour participer à ta sainteté. Bon, j'espère que ce message-là vous a aidé à comprendre certaines choses puis qu'elles vont vous porter, qu'elles vont nous porter à viser une vie spirituelle plus mature et plus profonde. Amen.